Rythme 7-9.
Bienvenue sur France Inter, nous sommes le vendredi 25 février. Bonjour Hélène Fromanty.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'invasion russe en Ukraine qui se poursuit avec de nouvelles explosions entendues cette nuit à Kiev. Le président Macron veut que l'Europe se réveille. Dans ce journal, nous ferons un point sur les condamnations et sanctions occidentales, un point sur l'avancée des troupes russes et sur l'exode massif qui en découle. Ce sera notre zoom ce matin en direct à 7h15 et on en parlera à 8h20 avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et ce matin, l'invité de France Inter. Vos questions dès maintenant, le standard vous attend au 01 45 24 7000. On passe aux autres titres, Hélène.
Nous serons à Angers dans ce journal où sont jugés 5 hommes, 6 ans après l'effondrement du balcon d'une résidence, 4 morts et 14 blessés. Les victimes, les familles de victimes doivent témoigner dans la journée. Et puis, qui pour succéder à Adieu les cons, 47e cérémonie des Césars ce soir à Paris, sans les couacs des deux dernières années, on l'espère, mais avec comme toujours des films, des stars et des paillettes.
Et justement, à 7h50, l'invité de Léa Salamé.
Ce n'est pas le réalisateur hyper talentueux que nous recevons ce matin, mais l'acteur, nommé au César pour sa performance dans Illusion perdue de Xavier Giannoli. À peine a-t-il atterri à Paris de son Québec natal que nous l'avons enfermé dans notre studio d'Inter. Xavier Dolan sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa.
France Inter. De nouvelles explosions ont donc retenti cette nuit à Kiev, plus de 24 heures désormais. Après le lancement de l'offensive russe en Ukraine, le calme n'est plus qu'un souvenir lointain dans le pays. Le président Macron l'a déclaré hier, cette offensive est l'atteinte la plus grave à la paix en Europe depuis des décennies. Alors l'Union européenne doit, selon lui, devenir une véritable puissance. C'est ce qu'il a martelé au petit matin à l'issue d'un sommet extraordinaire à Bruxelles.
Nous avons là, je crois, pleinement démontré la nécessité pour notre Europe d'accélérer son agenda de souveraineté. Les temps tragiques de l'histoire reviennent. La guerre est là, sur notre sol. Et donc, si besoin était d'avoir la démonstration que l'Europe n'est pas simplement un marché de consommateurs, mais bien une puissance qui doit penser son indépendance énergétique, sa transition climatique par elle-même, qui doit penser une Europe de la défense capable de protéger ses frontières, ses citoyens, et de se projeter vers ses alliés, entre autres choses, et évidemment aussi une souveraineté technologique, la guerre que nous sommes en train de vivre nous le démontre cruellement. C'est pourquoi nous continuerons l'agenda amorcé ces derniers mois, ces dernières années, pour l'accélérer encore, car nous avons là la démonstration que dans les temps tragiques que nous vivons, l'Europe n'a d'autre choix que de redevenir, peut-être de devenir, oserais-je dire, une puissance.
Emmanuel Macron, qui s'est par ailleurs entretenu hier soir par téléphone avec Vladimir Poutine, le chef de l'État français dénonce la duplicité de son homologue russe, mais compte bien maintenir le dialogue avec lui. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Du service économie de France Inter, la France et ses partenaires occidentaux continuent de condamner la Russie avec la plus grande fermeté. Les mots sont durs et les sanctions suivent, Laurent.
Oui, avec cet objectif, encercler l'économie russe et limiter ses capacités de développement technologique. Nouveau train de sanctions envers les deux plus grande banque du pays, 70% du secteur bancaire russe, est désormais concerné selon l'Union européenne. Nouvelle liste d'hommes d'affaires et d'oligarques dont les avoirs et les déplacements seront bloqués sur le sol européen et aux États-Unis. L'Union européenne, tout comme les États-Unis, annonce limiter toute capacité d'emprunt et d'accès aux capitaux occidentaux pour la Russie. Le décrochage du rouble apparaît comme une arme de guerre plus efficace pour les Européens et les Américains. De la même façon, l'accès à toute pièce détachée de pointe, indispensable au secteur de l'énergie, de l'aéronautique et de la défense russe seront verrouillés. L'Union européenne entend notamment retarder les capacités technologiques russes nécessaires pour extraire de nouvelles ressources pétrolières, de nouvelles technologies et se tourner vers l'Asie.
Laurent Kramer, merci du service économie de France Inter. Pour tenter de freiner l'offensive, le président ukrainien a décrété hier la mobilisation générale dans son pays, mais partout c'est la panique. Distributeurs vidés, bouchons monstres sur les routes, file d'attente aux stations-service, des centaines de milliers de personnes tentent de fuir. C'est l'option envisagée par ce père de famille ukrainien que Thibault Lefebvre et Jérémy Tuil ont suivi à l'est du Donbass.
Sergui ne lâche pas son téléphone.
Je prends des nouvelles de mon épouse.
Et la discussion tourne autour de leur fils engagé dans l'armée depuis peu et qui devrait donc se battre dans les prochains jours.
Comme il est soldat, il nous transmet des informations et quand il nous dira qu'il faut que l'on s'en aille, on l'écoutera. J'ai fait le plein d'essence, j'ai des jerrycans. Et donc, quand il nous le dira, nous partirons.
Et comme toutes les familles qui ont pris la route hier, l'objectif, c'est de quitter l'Est au plus vite.
On attend encore de voir exactement, mais oui, il faut aller dans cette direction, vers la Pologne, vive vers l'ouest du pays.
Vous avez peur des Russes ?
Ce n'est pas la question. Les Russes sont comme nous. Moi aussi, je parle le russe. Non, j'ai peur des armes et des échanges de tirs. Ça n'est pas la même chose.
Sergueï pourrait donc rejoindre les 100 000 Ukrainiens qui ont fui leur région ou les milliers d'autres à l'étranger.
Thibault Lefebvre avec les moyens techniques de Jérémy Tchuil dans le Donbass, fuir vers l'ouest, tout faire pour se mettre à l'abri car les Russes entrent en Ukraine de toutes parts. Bertrand Galichet, on va adresser avec vous la carte des combats. Bonjour.
Bonjour.
Les forces de Vladimir Poutine semblent se rapprocher de la capitale, Bertrand.
Avec ce matin, deux tirs de missiles qui auraient blessé au moins trois personnes, dont une grièvement dans un quartier résidentiel. Des tirs horribles, déclare le chef de la diplomatie ukrainienne. La dernière fois que la capitale a connu quelque chose de semblable, dit-il, c'était en 1941, lors de l'attaque de l'Allemagne nazie. Les détonations ont été entendues à l'aube dans le centre-ville. Il est actuellement un peu plus de 8 heures du matin à Kiev. Les attaques russes semblent se concentrer ces dernières heures sur la capitale et en particulier sur des cibles stratégiques et gouvernementales. L'objectif de la Russie étant clairement de renverser le gouvernement Zelensky. Le président ukrainien assure qu'il restera à Kiev avec sa famille. Le couvre-feu est décrété en ville, où selon le chef de l'État, des groupes russes de sabotage sont à l'œuvre. Un responsable du renseignement occidental confirme ce matin que la Russie veut rassembler une force écrasante autour de la capitale ukrainienne. À la limite nord de la ville, la situation à l'aéroport militaire Antonov de Gostomel, pris d'assaut hier par des troupes russes, est incertaine, l'armée ukrainienne ayant lancé une contre-offensive.
Bertrand Galichet de la rédaction internationale de Radio France. Entre bombardements et explosions, font-ils continuer à travailler en Ukraine ? Dilemme pour les entreprises françaises implantées dans le pays. Certaines ont déjà rapatrié leurs collaborateurs et ce, dès les premières menaces russes. D'autres maintiennent une présence sur place. Philippe Lefebvre, quelle est la situation ce matin ?
Alors chez Total Energy, par exemple, on indique que 25 collaborateurs français sont encore dans le pays, mais qu'il n'a pas été pour le moment décidé de les rapatrier. Chez Danone, on précise que des actions sont mises en place pour assurer la sécurité des salariés et la continuité des activités. Même chose chez Decathlon qui possède 5 magasins autour de Kiev. Du côté des PME, plusieurs dirigeants ont quitté le pays dès les premières recommandations du ministère français des Affaires étrangères et certains gèrent désormais leurs entreprises à distance, comme ce chef d'entreprise qui souhaite rester anonyme.
Les gens se retrouvent où ils peuvent, on essaye de faire virer l'argent sur les cartes bleues qui marchent plus fortement, donc on essaye de récupérer une partie des caisses pour les payer, et puis voilà, et on met en sécurité le stock, on distribue tout ce qu'on peut distribuer en périssable aux salariés, ça sert à rien de laisser les frigos pleins.
Et ce qui reste s'organise, selon Tatiana Chevrolet, la directrice d'une chaîne de parfumerie française en Ukraine.
Les gens déjà se regroupent pour nettoyer les locaux, pour au sous-sol, pour avoir un abri complémentaire.
Enfin, à la Chambre de commerce franco-ukrainienne, on reconnaît que plusieurs entreprises françaises demandent désormais à leurs collaborateurs de rester chez eux.
Philippe Lefebvre. Et en France, plusieurs manifestations hier en soutien au peuple ukrainien à Paris, Nice, Marseille ou encore Lille. Le président Macron appelle lui à l'unité nationale, toujours pas entré en campagne pour la présidentielle. Il doit adresser dans la journée un message au Parlement lors d'une séance solennelle. Les autres prétendants à l'Élysée ont de leur côté unanimement condamné cette invasion russe en Ukraine, y compris ceux comme l'insoumis Jean-Luc Mélenchon qui ont le plus ménagé la Russie ces dernières semaines. Jean-Luc Mélenchon qui vient par ailleurs de franchir la barre fatidique des 500 parrainages nécessaires pour officiellement entrer dans la course à cette Élysée. D'après le dernier décompte du Conseil constitutionnel, Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont plus très loin, avec un peu plus de 400 signatures chacun. Par contre, fin de campagne en vue pour Christiane Taubira qui n'a, à une semaine de la date butoir, que 128 paraphes.
Il est 7h10, 6 ans après l'effondrement d'un balcon à Angers, 4 morts en octobre 2016, les familles de victimes attendues à la barre.
Après les acteurs acteurs du chantier. Ce sont les proches donc des victimes qui vont témoigner au procès qui s'est ouvert depuis début février au tribunal correctionnel d'Angers. Le 15 octobre 2016, vers 23h, lors d'une soirée de crémaillère, le balcon d'un appartement où se trouvent 18 personnes s'effondre d'un coup, faisant donc 4 morts et 14 blessés. 5 hommes ayant participé à la conception et à la construction de la résidence sont jugés pour homicide involontaire et blessures involontaires. Une série de défaillances du chantier ont été pointées et avant les parties civiles aujourd'hui, hier, le dernier maillon de la chaîne a été entendu à la barre. Il s'agit du contrôleur technique, Sophie Constanzer.
C'est comme ça qu'il se décrit. Je suis le dernier maillon de la chaîne des manquements. À la barre, André de Douvan, 84 ans, n'esquive aucune question, mais prévient, je n'ai aucun souvenir de cette affaire, zéro. Il était le contrôleur technique lors de la construction en 1997 de la résidence où s'est déroulé le drame. Et 25 ans après le chantier, il admet « J'aurais mis un avis non conforme si j'avais vu qu'on était passé d'un balcon préfabriqué sur les plans à un balcon construit sur place. Ça m'a échappé, là est ma faute. Mais une fois que le béton est coulé, on n'y voit plus rien. » C'est ici le point clé soulevé par les experts, le changement de mode de construction du balcon en cours de chantier. Alors la présidente insiste, qu'est-ce que ça change en termes de solidité ? Ça change rien si c'est bien fait. Soupir dans la salle et la présidente enfonce le clou. Alors à quoi sert un contrôleur de travaux s'il ne fait pas son travail ? Le prévenu baisse la tête. Une fois en 40 ans de carrière. Et puis dans un souffle, il conclut. Je compatis, mais je n'ai pas la douleur des familles.
Sophie Constanzer, ce procès qui doit durer jusqu'au 4 mars à Angers. Tout le gratin du cinéma français se retrouve ce soir à Paris 47, 47e cérémonie des Césars à l'Olympia, avec comme grand favori cette année, le très balsacien Illusion perdue de Xavier Giannoli, nommé à 15 reprises, talonné de près par l'opéra pop Annette, signé Léo Scarrax, et aussi par Aline, la comédie de Valérie Le Mercier sur la vie de Céline Dion. On devrait savoir vers minuit qui succède Adieu les cons, le film d'Albert Dupontel triomphant l'an dernier. Mais l'enjeu de cette édition, c'est surtout la réussite ou non de la cérémonie après les nombreux couacs de ces deux dernières années, Alexis Demeyer.
L'an dernier, seulement 9% des téléspectateurs avaient suivi les Césars. Un flop d'audience, mais aussi un flop sur scène où les blagues de la maîtresse de cérémonie Marina Foïs ont parfois fait pchit. Et puis il y a eu la mise à nu de Corinne Maziero en soutien aux intermittents.
Alors j'ai un autre costume si tu veux, si celui-là te plaît pas. Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu.
En 2020, la présentatrice, Florence Foresti, n'avait même pas terminé la soirée. L'humoriste a quitté la scène lorsque Roman Polanski a été désigné meilleur réalisateur. Au même moment, l'actrice Adèle Haenel quittait bruyamment la salle. Cette année, c'est Antoine Decaune qui a la lourde tâche d'animer ces Césars de la dernière chance. Heureusement, notre popopien est un habitué. C'est sa 10e cérémonie, presque autant que le recordman Pierre Tchernia. Antoine Decaune promet de célébrer le cinéma comme un art et un divertissement. Et il le prouve dans la bande-annonce.
Je ne veux pas changer une certaine émotion.
Que je me retrouve ce soir face à vous.
Charge à lui de mettre du rythme et d'éviter l'entre-soi et le parisianisme qui sont souvent reprochés aux organisateurs des Césars. En tout cas, Kaamelott et L'Étuche 4, les deux leaders français du box-office 2021, brilleront ce soir par leur absence de nomination.
Alexis Demeyer, service culture de France Inter. Les Césars, c'est donc à partir de 21h. Et puis sur France Inter, à ne pas manquer ce matin, Léa Salamé reçoit le réalisateur Xavier Dolan, lui nommé pour le César du meilleur acteur dans Illusion perdue. Rendez-vous sur Inter à 7h50. Lui perd le prix du meilleur joueur de tennis du monde, le Serbe Novak Djokovic, détrôné au classement ATP après sa défaite en quart de finale du tournoi de Dubaï, le premier de la saison pour lui. Et la place de numéro 1 mondial est décernée au Russe Daniil Medvedev.
Merci Hélène Fromanti. Tout de suite, le zoom en direct d'Ukraine aux côtés des déplacés.